L'heure pour vous de retrouver Claire Flauchel pour le journal. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. À Bruxelles, c'est le statu quo au sommet des dirigeants européens. Nuit blanche, car toujours pas d'accord sur la nomination des nouveaux représentants de l'Union européenne qui pourraient donc faire l'objet d'un nouveau rendez-vous diplomatique. On rejoindra Pierre Benazet, notre correspondant à Bruxelles, au début de ce journal.
Et dans cette édition également, la police de Hong Kong qui s'est attaquée ce matin à des manifestants pro-démocratie pour les empêcher d'occuper une avenue à l'occasion du 22e anniversaire de la rétrocession à la Chine.
Le contexte est tendu, les contestataires exigent toujours le retrait d'un projet de loi qui permettrait les extraditions vers la Chine. Nous irons aussi à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le Rio Grande est traversé chaque année par des milliers de migrants, à l'image de ce père et de sa fille qui ont perdu la vie. La photo a fait le tour du monde, reportage à suivre de Grégory Phillips. En France, c'est parti pour le brevet 2019, reporté la semaine dernière pour cause de canicule et qui pourrait être perturbé. En tout cas, les surveillants sont appelés à faire grève. Certains parents sont inquiets, d'autres soutiennent les enseignants. Les négociations pour les postes clés à la tête de l'Union européenne avec cette réunion entre dirigeants de l'UE depuis hier soir et peut-être encore pour plusieurs heures. Il s'agit de désigner les présidents de la Commission, du Conseil, du Parlement, de la Banque Centrale Européenne et le poste de haut représentant pour la diplomatie. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour Claire.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Emmanuel Macron se disait optimiste à son arrivée, mais pour l'heure, Pierre, il n'y a toujours aucune avancée.
Non, effectivement, c'est l'impasse. C'est pour ce sommet européen. C'est finalement un peu la situation qui était attendue avant les arrivées hier, puisqu'il y avait quand même un certain pessimisme des autres. Et ça avait poussé d'ailleurs les organisateurs à prévoir depuis une semaine un petit déjeuner ce matin. Les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'UE sont, pour certains, depuis le milieu de l'après-midi hier au Conseil européen. La réunion a tout de même commencé hier soir avec 3 heures de retard, le dîner ayant été décalé pour cause de bilatéral, ces fameux entretiens à 2, voire 3, 4 ou 5, qui sont censés permettre de dégager un compromis. En fin de compte, ces rencontres en petits groupes ont pour l'instant occupé l'essentiel de ce sommet, avec une pause entre 4h30 et 7h30 ce matin, et encore une pause pendant laquelle tout le monde s'est pas reposé. Le président du Conseil, Donald Tusk, avait repris des consultations individuelles à ce moment-là. Le compromis qui était envisagé avec le travailliste Frans Timmermans, le néerlandais à la tête de la Commission, et le conservateur allemand Manfred Weber au Parlement, a rencontré l'opposition frontale des conservateurs, en particulier en Europe centrale, puisqu'il faut trouver un équilibre entre famille politique, entre pays, un équilibre Est-Ouest, une parité homme-femme. On reparle de la libérale danoise Margrethe Vestager, mais aussi du Premier ministre belge, le libéral Charles Michel, ou encore du président roumain, le conservateur Klaus Iohannis. Une nuit blanche donc pour l'instant, mais toujours pas de fumée blanche.
Pierre Benazet, correspondant de France Culture à Bruxelles, merci. En attendant, une chose est sûre, c'est la Finlande qui aujourd'hui prend la présidence tournante de l'Union européenne. À Hong Kong, les célébrations officielles du 22e anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine ont eu lieu sous haute tension tôt ce matin. La police a repoussé à coups de gaz lacrymogène et de coups de bâton quelques centaines de manifestants qui ont tenté de s'approcher des lieux de la cérémonie officielle et de bloquer certaines avenues. Des manifestants qui réclament toujours le retrait total d'un projet de loi sur l'extradition, notamment vers la Chine. Florence de Changy, vous étiez à la cérémonie officielle du lever de drapeau qui a donc eu lieu avec un niveau de sécurité tout à fait inhabituel.
Cela faisait quasiment 2 semaines que Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, n'était plus apparue en public. Et ce retour a eu lieu avec un niveau de sécurité inhabituel, station de métro fermée à proximité du centre des congrès et forte présence policière. À 6 heures du matin, prétextant une météo défavorable, le gouvernement a décidé que la cérémonie de lever de drapeau pour marquer le 22e anniversaire de la rétrocession à la Chine aurait d'ailleurs lieu à l'intérieur, sans doute surtout pour rester le plus isolé possible des manifestants qui, depuis 4 heures du matin, avait tenté de s'approcher de Bohemia Square. Carrie Lam, qui avait présenté ses excuses le 18 juin, mais n'avait pas voulu céder l'abandon total du projet de loi sur l'extradition, a à nouveau fait amende honorable lundi matin en reconnaissant l'importance d'appréhender avec précision les sentiments du public. Même avec de bonnes intentions, il nous faut encore être ouvert et accommodant. Soucieux d'efficacité administrative, le gouvernement doit aussi écouter avec patience, a-t-elle notamment déclaré. Un mea culpa tiède qui ne calmera certainement pas la colère qui monte du côté des manifestants. Après des échauffourées entre manifestants pro- et anti-gouvernement dimanche soir. C'est entre la police et les manifestants anti-gouvernement que des heurts ont eu lieu ce matin. Une nouvelle manifestation de très grande ampleur est prévue lundi après-midi.
Florence de Changy, correspondante de France Culture à Hong Kong. Des dizaines de blessés recensés après une très forte explosion à Kaboul, là où se trouvent les ministères, les ambassades et plusieurs grands médias. Une explosion suivie de rafales d'armes automatiques. L'Union européenne est toujours divisée sur les questions migratoires. Hier, le gouvernement français a critiqué l'attitude du gouvernement italien vis-à-vis du Sea-Watch. Ce bateau humanitaire interdit d'accoster en Italie a forcé le barrage de Lampedusa. Sa capitaine allemande a été arrêtée et elle semble très soutenue dans son pays d'origine à Berlin, Ludovic Piétenu.
C'est le président de la République fédérale allemande, Frank-Walter Steinmeier, qui, dans une interview hier soir à la chaîne ZDF, rappelle à l'ordre l'Italie. Ce n'est pas n'importe quel pays, dit-il, c'est un des fondateurs de l'Europe dont on s'attendrait qu'il gère une telle affaire autrement. Il apporte son soutien sans détour à la capitaine allemande. Quelqu'un qui sauve des vies humaines ne peut pas être un criminel. Cette phrase, il le précise, est le titre d'une initiative qu'ont lancée il y a un peu plus de 24 heures deux célèbres animateurs de télévision, des humoristes, dans une vidéo mise en ligne samedi soir. Ils appellent à un grand élan de solidarité pour couvrir les frais de justice. La cagnotte dépasse déjà les 670 000 euros. Plus de 25 000 donateurs, pour l'essentiel des Allemands. Dans leur appel aux dons, les deux animateurs ironisent, et dont la capitaine du Sea-Watch 3 avec ce que nous avons le plus en Allemagne, de l'argent. Hier soir, 700 personnes ont protesté bruyamment sous les fenêtres du consulat d'Italie à Munich, et d'ores et déjà une manifestation de soutien à la capitaine. Capitaine Carola Racket est prévue samedi dans la capitale allemande.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture en Allemagne. C'est une photo qui a fait le tour du monde et des réseaux sociaux depuis une semaine et suscité colère et indignation, celle d'un père de famille et de sa fille d'à peine 2 ans morts noyés dans le Rio Grande à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Un drame qui illustre le désespoir de ces migrants venus d'Amérique centrale ou latine, prêts à tout pour quitter leur pays. Grégory Phillips, correspondant de France Culture, s'est rendu à Matamoros, au Mexique, là où le père et son enfant ont été emportés par les eaux.
Vu d'ici, le Rio Grande ne paraît pas très large. On peut descendre à pied jusqu'à la rivière. Les États-Unis sont de l'autre côté, à une cinquantaine de mètres. On voit d'ailleurs la barrière, le mur en métal, bâti par les autorités américaines. Pas très large donc, mais la traversée est dangereuse. Il y a un panneau qui l'indique, Peligro. Il y a beaucoup de courants, dit Kate Harrington, une américaine qui chaque jour traverse la frontière pour apporter de l'aide et de la nourriture aux migrants. Des débris végétaux aussi qui flottent. Il a énormément plu la semaine dernière. Si vous ne savez pas bien nager, c'est très dangereux. Si ces familles tentent la traversée, c'est parce qu'elles veulent aller aux États-Unis déposer une demande d'asile et qu'un passage par le pont qui relie Matamoros à Brownsville, Texas, peut demander jusqu'à 3 mois d'attente. Pablo et sa fille de 10 ans, qu'on rencontre dans un centre d'hébergement de Brownsville, viennent du Honduras. Leur voyage a duré 21 jours. Eux aussi ont traversé le Rio Grande la semaine dernière, au prix d'un grand danger. On était sur un petit canot pneumatique, on a eu très peur. On était 14 là-dessus et le canot a commencé à se dégonfler. Puis j'ai marché dans l'eau avec ma fille sur les épaules, au milieu d'un courant très fort. Les corps de la petite Valeria et de son père ont été rapatriés au Salvador. Pablo et sa fille, eux, peuvent maintenant aller où ils veulent aux États-Unis en attendant le résultat de leur demande d'asile. Ils devraient bientôt quitter Brownsville pour rejoindre un oncle installé en Caroline du Sud. Il a promis de leur payer bientôt un ticket de bus pour monter plus au nord.
Un reportage signé Grégory Phillips. Au Kosovo, les produits de première nécessité manquent cruellement dans les magasins de Mitrovica Nord, l'unique grande ville à majorité serbe. C'est la conséquence directe du durcissement de la lutte contre la contrebande de produits alimentaires. En signe de protestation, les magasins du Nord Kosovo sont tous fermés ce lundi. Les précisions de Laurent Rouy.
C'est une de ces situations irrationnelles comme le Kosovo en a tant produit qui se déroule ces jours-ci dans le nord, une région à majorité serbe. Depuis peu, les magasins manquent de produits alimentaires, alors qu'à quelques centaines de mètres, côté albanais, les supermarchés sont pleins. En signe de protestation et pour dénoncer la pénurie, tous les magasins serbes seront fermés ce lundi. En cause, les sanctions économiques que le gouvernement du Kosovo avait mis en place il y a 7 mois sous la forme d'un droit de douane de 100% contre les produits serbes. Jusqu'à présent, les produits serbes passaient en fraude au Kosovo grâce au gouvernement serbe qui organisait discrètement la contrebande. Mais depuis peu, Pristina a contre-attaqué par des opérations de police. Les habitants côté serbe pourraient facilement aller faire leurs courses côté albanais. Mais d'après plusieurs témoignages, les Serbes les plus extrémistes les en dissuadent, parfois brutalement. Dans cette guerre commerciale, il semble que et le président serbe et le premier ministre albanais du Kosovo tirent leur épingle du jeu. Le serbe Aleksandar Vučić tient le beau rôle en dénonçant les pressions contre les civils, tandis que le kosovar Ramush Haradinaj fait preuve d'intransigeance contre une Serbie qui refuse toujours de reconnaître l'indépendance de son pays. Les seules victimes de cette crise sont les habitants serbes qui, privés de leurs produits préférés et empêchés de faire leurs courses ailleurs, prennent leur mal en patience en attendant qu'une solution politique leur permette à nouveau d'acheter du pain, de l'huile et du lait.
Laurent Rouy, correspondant de France Culture au Kosovo. Il avait déjà laissé entendre qu'il arrêtait la politique après sa défaite en 2012, avant de revenir pour la primaire en 2017. Cette fois, Nicolas Sarkozy l'assure, la politique partisane s'est définitivement terminée. Pour ne pas apporter de confusion, assure-t-il. L'ancien chef de l'État était sur France 2 hier soir pour la sortie de son livre « Passion » et en pleine crise chez les Républicains, un mois après les européennes et la démission de Laurent Wauquiez. Ils sont plus de 830 000 à passer ce matin le brevet des collèges. Les épreuves avaient été repoussées en raison de la canicule la semaine dernière. Elles ont donc lieu ce matin dès 9h, français et mathématiques, avant l'histoire géo et les sciences demain. Épreuves qui pourraient être un peu perturbées puisque les enseignants qui surveillent sont appelés à faire grève pour dénoncer la réforme du bac et la loi Blanquer. Mais le ministère se veut très rassurant vis-à-vis des élèves et de leurs parents. Le brevet devrait se dérouler sans problème. Rodrigo Arenas est parent d'élèves, président de la FCPE. Il soutient, lui, le mouvement de grève.
Vous avez un peu tout. Vous avez des parents qui, évidemment, sont inquiets, d'autres qui trouvent que ce n'est pas une bonne chose, et d'autres qui soutiennent les enseignants. Donc aujourd'hui, effectivement, les parents d'élèves sont assez divisés sur cette question-là, mais il nous appartient à nous, fédération principale de parents d'élèves, de dire que c'est pas ça le dialogue social. On trouve quand même insupportable qu'aujourd'hui, le dialogue social en soit là. C'est-à-dire que finalement, les enseignants se voient contraints d'aller sur des mouvements qui sont inquiétants, peuvent être un peu anxiogènes, et ça montre aussi l'état du dialogue social dans notre pays. Ça montre qu'aujourd'hui, le gouvernement, d'une façon générale, quand on voit les différents épisodes de protestation dans notre pays, mais le ministère de l'Éducation nationale en particulier, est incapable aujourd'hui de pouvoir avoir un dialogue constructif avec des syndicats d'enseignants, parce que aussi, il faut le dire, ils sont constamment contournés, et si des syndicats sont à la même enseigne que les parents, eh ben, on vient plutôt leur expliquer les réformes plutôt que de les faire participer d'un point de vue de coopération. Vous savez, il y a une vraie expertise dans les corps intermédiaires que nous représentons, et aujourd'hui, cette expertise n'est pas prise en compte. Parce que on a eu des orientations aujourd'hui où on fonce en avant, mais on voit bien que sur le terrain, ça craque.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi. 13 départements sont toujours en vigilance orange à la canicule, mais globalement les températures baissent et c'est donc la fin de la circulation différenciée dès ce matin. À Paris en tout cas, mais certains véhicules n'auront quand même plus le droit de rouler. C'était prévu à partir d'aujourd'hui avec la mise en place d'une zone à faibles émissions de particules. Les explications de Bastien Roch.
En théorie, la zone à faibles émissions est mise en place à partir de ce lundi. Les véhicules non équipés de vignettes critères de niveau 0 à 4 ne seront plus acceptés dans les zones entourées par l'A86. La ville de Paris applique déjà cette sélection depuis 2017. En semaine, aucun véhicule ne peut entrer dans la capitale sans une vignette de niveau 4 ou moins. C'est d'ailleurs encore plus drastique en cas de pic de pollution. Mais la limitation de base ne s'applique pour l'instant pas aux 78 autres communes situées dans la nouvelle ZFE. Pour celle-ci, la mise en application n'est pas prévue avant fin 2021. Et d'ici là, eh bien, pas grand-chose ou peu s'en faut. Pas de sanctions, pas d'amende dans les 78 communes du dispositif. La zone à faibles émissions reste purement juridique, virtuelle. Seule la ville de Paris applique ses propres restrictions. Du côté de la métropole du Grand Paris, on réfute le terme de mesure symbolique et on préfère parler de contrôle pédagogique. Une campagne de communication est prévue pour alerter les franciliens sur les changements à venir. L'effort est surtout porté sur les aides à la conversion, renforcées pour pousser les automobilistes à remplacer leur ancien véhicule. Un coup de pouce variable qui pourra s'élever jusqu'à 17 000 euros pour l'achat d'un véhicule neuf, 11 000 pour un véhicule d'occasion. À condition de cumuler les aides de la métropole avec le bonus écologique et la prime à la conversion de l'État. Les conducteurs franciliens de voitures polluantes ont donc encore le temps de voir venir. Il leur reste au moins 2 ans et demi pour changer de véhicule s'ils veulent circuler librement à l'intérieur de la future ZFE.
Bastien Roch, autre nouveauté de ce 1er juillet, le contrôle technique renforcé pour les véhicules roulant au diesel. Le prix du gaz qui baisse de 6,8%. Dans la capitale, c'est le retour de l'encadrement des loyers et puis un nouveau droit pour les pères avec un congé paternité qui s'allonge jusqu'à 30 jours dans certains cas. La météo de ce lundi, le matin, le soleil dominent autour de la Méditerranée et le long de la vallée du Rhône. Des nuages en revanche dans le sud-ouest, partout ailleurs le ciel est partagé entre éclaircies et passages nuageux, lâchant quelques averses parfois orageuses. Il le fait ce matin entre 21 degrés et 23 degrés en Alsace, vallée du Rhône et pourtour méditerranéen. Ailleurs, les températures ne dépassent pas les 21 degrés.